Imaginez un monde où il serait légal de vendre une chaise qui n'a que deux pieds. Des peluches en tissu inflammable. Un monde où on aurait le droit de stocker vos données personnelles pour toujours et de les utiliser pour vous téléphoner deux fois par jour et vous vendre des fenêtres. Et en plus, ces fenêtres, elles ne seraient absolument pas conformes. Elles laisseraient passer le froid et le bruit. Vous les payeriez en 10 fois avec un taux indexé sur le prix des bananes. Ne vous inquiétez pas, ce monde n'existe pas. Je vous ai juste plongé dans un cauchemar, le cauchemar d'un juriste compliance. Alors compliance, ça veut dire conformité. Et c'est notamment de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec Paul Moussier. Bienvenue dans C'est pas un métier. Salut Paul.
Salut Guillaume.
Bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, je suis accompagné du plus conforme d'entre nous, expert en formation, directeur de groupe scolaire, norme ISO 2014. Quelle blague de gros boomer je viens de faire, j'ai du mal à y croire. Comment ça va mon cher Benoît?
Ça va Guillaume, et toi?
Bon, ça va. Tu aurais pu me faire une petite relance humoristique, mais bon, écoute, tu aurais pu préparer ça. Paul, je pense que ton métier est plutôt mystérieux pour la plupart des gens. Alors, je te propose un truc. Est-ce que tu peux nous l'expliquer comme si tu le faisais lors d'un premier date?
Super question, j'avoue que j'avais jamais vu la chose de la façon suivante. Si j'étais lors de mon premier date, je dirais que je fais un droit assez nouveau, un droit assez mystérieux, puisque on fait du droit depuis des siècles, si ce n'est pas des millénaires. Mais quand on parle de compliance ou de conformité, on applique des règles de nouvelles manières. Donc je fais un droit un petit peu artistique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles façons d'appliquer des normes, de comprendre les lois, de les mettre en œuvre. Donc on est un peu des créateurs, pas de contenu, mais d'obligations et de conformité.
Mais alors c'est quoi exactement que tu fais? Là, je prends la voix d'une fille en date, hein. Ou d'un homme en date. Enfin, je fais la voix de quelqu'un en date qui veut en savoir plus.
Le métier, il est double, si je peux résumer la chose ainsi. D'abord, on fait une analyse de la réglementation qui s'applique aux différentes entreprises et administrations. On essaye de voir un petit peu à quelle marge de manœuvre on a pour respecter ces obligations-là.
Un exemple, juste qu'on voit un petit peu quelque chose de concret.
Ouais, bien sûr. Un exemple, tiens, que j'ai connu il y a maintenant quelques années, quand la loi Sapin 2, tu sais, a été mise en œuvre pour se conformer aux obligations anti-corruption. On a dû se demander quel était le niveau raisonnable de seuil pour inviter des collègues ou des fournisseurs au restaurant. Est-ce qu'on pouvait les inviter pour 30 euros, 70 euros, 400 euros? Et donc, on réfléchit à ça. Le droit ne dit pas ça. Le droit dit juste trouver un montant qui semble raisonnable. Donc, on cogite et on trouve un montant qui nous permet d'être dans la légalité.
Ok, alors on reviendra sur la corruption, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toutes ces petites choses, il y a des normes. C'est pas seulement les normes comme sur les objets ou... On a tendance à penser aux normes un peu grand public, par exemple, voilà, les peluches ne doivent pas prendre feu, même si on les plonge dans un four pendant une demi-heure. Là, sur les choses qui se passent en entreprise, il y a aussi des normes.
Tout à fait.
Et toi, ton travail, c'est quoi? C'est de les appliquer ou de les créer?
Tout à fait. C'est de les appliquer et de trouver des façons nouvelles et un peu innovantes de les mettre en œuvre. Si tu veux, pour résumer la chose très simplement, pendant des années, on a fait du droit de façon un petit peu schématique. Il y a une loi qui dit quelque chose, la loi dit A, et l'entreprise doit faire A au quotidien. Aujourd'hui, maintenant, la loi donne juste des grands principes, et les entreprises, notamment les juristes compliance, doivent trouver des manières assez originales de mettre en œuvre ces obligations, tout en respectant les métiers, l'objet industriel, l'objet commercial de la boîte, etc.
Et quand tu dis original, je comprends que c'est aussi un peu pour que ton entreprise puisse en profiter sans être trop contrainte par ses normes.
Exactement.
L'idée, il y a un peu ce rapport-là.
Tout à fait, exactement.
Parce que par exemple, si on te dit inviter au restaurant, c'est de la corruption, tu fais non, mais pas au McDo.
Disons que pour moins de 50 euros, on peut inviter quand même son collègue ou son fournisseur pour moins de 50 euros quand même.
Ok.
Alors tu nous dis que c'est un droit nouveau, c'est une nouvelle manière de finalement d'appliquer le droit. Quel est ton parcours pour arriver à faire ce métier-là finalement?
Moi j'ai fait, après un baccalauréat littéraire, j'ai fait une licence de droit, notamment droit spécialisé pour les administrations, le secteur public. Et puis je commençais un petit peu à tourner en rond, j'avais pas envie de finir juriste perdu dans une administration obscure, couloir 400B, étage 12. Donc je me suis spécialisé en master en droit du numérique et des technologies, notamment pour le secteur public et le secteur privé. Et j'ai découvert du coup au travers de la vie privée, la compliance RGPD, etc., la compliance tout court, et donc j'ai été amené ensuite à travailler pour une administration à la ville de Paris sur tout l'ensemble du secteur compliance, anticorruption, droit des données, etc.
Donc finalement, tu n'as pas fait une formation spécifique à la conformité,
pas
tu as
tout.
Été formé finalement sur le
tout tard. À fait, j'ai été formé sur le tard grâce à mon année d'alternance où j'ai découvert aussi ce domaine un petit peu en pratique et j'ai décidé d'aller plus loin durant ma carrière professionnelle.
Tout à l'heure, tu as dit que c'était un droit un peu artistique. Tu peux développer ça?
Bien sûr. Je reprends la dualité que je vous énonçais à l'instant. Pendant des années, quand on appliquait du droit, on prenait ce que disait la loi. Hein, on ouvrait son Légifrance, on allait ouvrir le recueil d'Allos, etc. C'était un petit peu théorique. Avec la compliance, aujourd'hui, les lois, les normes réglementaires, les normes privées aussi, les normes ISO par exemple, vont énoncer des principes, des exigences d'obligation, et l'entreprise ou l'administration, parce que l'administration est aussi concernée par la compliance, hein, il y a le secteur public comme le secteur privé, va devoir trouver des manières de mettre en œuvre ces obligations-là selon des méthodes, des façons d'appliquer qui sont originales, diverses et variées. Je vous prends un exemple très simple. Quand on est dans le secteur privé et qu'on va respecter, par exemple, en matière d'anticorruption, des recommandations de l'AFA, l'Agence française anticorruption, l'Agence française anticorruption ne donne pas un mode d'emploi pour, par exemple, envoyer des lettres à ses fournisseurs pour savoir effectivement si eux aussi sont en conformité. On peut avoir plein de façons d'innover, de contacter ses fournisseurs, des attestations, des réunions, des sessions de formation aussi avec ses fournisseurs. Donc voilà, le juriste compliance a une marge de manœuvre en matière d'appliquer le droit qui n'existait pas avant, précisément parce que le droit ne laissait pas cette marge de manœuvre-là.
Ok. Tu parles depuis tout à l'heure pas mal d'anticorruption. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est? Parce que ça, je pense que c'est assez intéressant pour le grand public.
Quand on parle de compliance au sens large du terme, on retrouve généralement trois grands domaines. On a bien sûr la conformité au RGPD, le droit des données personnelles. Donc là-dessus, je reviens pas sur ce sujet. On pense également aussi à la lutte contre la corruption qui va concerner l'ensemble des façons de lutter contre les atteintes à la probité. Donc quand on parle d'atteinte à la probité dans le secteur public comme le secteur privé, ça va être la lutte contre la corruption.
C'est quoi la probité?
La probité, c'est la bonne gestion des deniers publics, c'est l'éthique dans les fonctions à responsabilité pour les dirigeants d'entreprise, par exemple, ou les élus à la tête d'un service public ou d'un établissement public local, par exemple.
Concrètement, c'est quoi?
C'est éviter, par exemple, d'être corrompu, éviter d'aller détourner de l'argent qui était déjà prévu pour une dépense en particulier, etc. Et donc, la lutte contre la corruption, c'est l'ensemble de ces règles-là qui vont permettre de lutter contre ces délits financiers et qui s'appliquent aujourd'hui au secteur public comme au secteur privé. Je prends un exemple très rapide, un dirigeant d'entreprise qui a décidé de passer un contrat sans faire, par exemple, un appel d'offres alors qu'il est contraint, il est, par exemple, en non-conformité avec les objectifs de lutte contre la corruption.
Et qu'est-ce qui risque dans ces cas-là? Comment ça se passe
Il y a deux choses. D'abord, il y a un ensemble de sanctions qui sont d'ordre financier administratif. L'entreprise, en tant que personne morale, va pouvoir prendre une sanction, une amende, qui commence un petit peu à chiffrer aujourd'hui. Deuxième type de sanction, c'est pour le dirigeant d'entreprise lui-même, qui est une personne physique, et qui peut voir des condamnations de prison, des peines de prison s'appliquer sur lui, ou des amendes à titre personnel. Donc voilà, c'est les deux types de sanctions qu'on va retrouver en matière d'atteinte contre la corruption.
Et donc toi, tu vas intervenir auprès de ces gens pour t'assurer qu'ils soient jamais dans une situation qui puisse les mettre en porte-à-faux et qui puisse leur faire avoir une grosse amende.
Exactement. Et ce qui pimente un peu la chose, c'est que des fois, on arrive bien sûr en mode, on est là, on est prévenu à l'avance des dossiers, on met en conformité l'entreprise ou l'administration, mais des fois, on arrive aussi en mode pompier. C'est ce qui rend le métier de juriste compliance stimulant. C'est que des fois, on arrive et on constate des situations qui sont problématiques, au sens juridique du terme, et donc on va devoir trouver des solutions pour les calmer, pour les apaiser.
Alors toi, tu fonctionnes comme ça, en fait? T'es une sorte de freelance qu'on appelle quand on a fait une bêtise?
Alors, pas freelance directement. Il y a différentes manières d'être juriste compliance. On peut être salarié dans une grande entreprise ou une administration, mais on peut aussi être consultant et intervenir chez des clients externes. Tout ça, c'est tout à fait possible.
Et comment tu fonctionnes?
Moi, du coup, je suis consultant.
Donc, tu es dans une agence où et quand on a un problème, on appelle ton agence, on t'envoie.
Exactement.
Et tu règles le problème.
Exactement. On tente de régler le problème. Il y a un besoin du client extérieur, bon de commande, et on arrive.
Tu peux nous raconter le pire incendie que tu as vu? Au sens figuré, bien sûr.
Bien
je parle pas dessus de Notre-Dame, qu'on a tous vu, qui était impressionnant, ok?
Pas celui-là, effectivement, je serais un piètre pompier. Enfin, je suis meilleur pompier pour les problèmes juridiques. Un exemple de non-conformité qui m'a particulièrement marqué. Je vais prendre un exemple cette fois-ci en matière de... Je vais switcher un petit peu entre corruption et données personnelles, si vous me le permettez. En matière de données personnelles, vu que j'ai occupé la fonction de déléguer à la protection des données, donc qui est une des facettes du juriste compliance.
Donc ça, je crois que c'est un nouveau poste qui est obligatoire dans les structures aujourd'hui. J'essaye de préciser parce que les gens qui nous écoutent ont moins de connaissances de tout ça, mais maintenant dans les entreprises, t'es obligé à partir d'un certain nombre de salariés d'avoir un responsable de la gestion des personnels, c'est depuis la RGPD.
C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ça fonctionne en matière de données personnelles, mais également en matière de lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait un juriste en charge de l'éthique, des atteintes contre la corruption, etc. Je reprends mon exemple de non-conformité vraiment majeure. Moi, j'ai connu des situations où des partenaires sur le territoire de la ville de Paris, que je ne nommerai pas si vous me permettez, pouvaient accéder, par exemple, pour des interventions dans différents services publics. Ça pourrait être la voirie, ça pouvait être le gaz, les fournisseurs d'énergie, qui pouvait accéder du coup en demandant simplement les données personnelles à d'autres fournisseurs présents sur la ville de Paris. Je prends un exemple tout bête. Je suis dans une entreprise A, je fournis du gaz ou de l'électricité sur un territoire local, ça peut être Paris comme une autre ville, et pour accéder aux compteurs qui sont dans les immeubles, je vais demander la liste des données personnelles à d'autres fournisseurs qui les ont. Et bah, moi, j'ai connu des situations où il suffisait d'appeler un copain ou un autre, peut-être juriste, qui n'était pas juriste compliance dans l'entreprise, et pour recevoir le fichier Excel de l'ensemble des codes d'accès d'entrée aux immeubles, des numéros de porte, etc., des étages avec les différents foyers. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas conforme à la réglementation, notamment celle RGPD. Et donc, l'idée, c'est d'arriver et de dire, vous voyez, ça, là, ça peut vous ramener une grosse amende, à la fois sur l'entreprise ou l'administration concernée, mais aussi, bien sûr, sur la responsabilité pénale du dirigeant ou de la dirigeante. Et du coup, on a été amené à solutionner ça, pas très rapidement, mais on y est arrivé quand même.
Comment, eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une mauvaise situation? Ils ont été dénoncés? Ou est-ce qu'ils se sont dit, là, ça fait 2-3 fois qu'on voit des fichiers Excel qui s'envoient entre copains, à l'intérieur, il y a des trucs qui sont un peu sensibles, on va peut-être appeler...
c'est là où le juriste compliance, c'est un petit peu la facette d'un super-héros. Alors, pardon, je grossis un peu la chose, hein, mais en fait, les entreprises ou administrations qui ne sont pas conformes, généralement, ne s'en rendent pas compte jusqu'à une chose assez magique et qui existe depuis des millénaires qui s'appelle la sanction. C'est-à-dire que le jour où arrive l'amende, ah tiens, on découvre en fait qu'il y a du droit, que le 20 millions d'euros ou le 4% du chiffre d'affaires annuel, ça peut faire mal effectivement sur un bilan de fin d'année. Et donc en fait, l'entreprise ou l'administration, jusqu'à ce qu'elle prenne cette sanction-là, elle ne sait pas qu'elle est pas conforme. Elle a entendu parler vaguement du RGPD ou la loi Sapin 2, elle a cru comprendre qu'il y avait quelques obligations RSE, mais elle s'est jamais posé la question, elle comprend pas, c'est pas rentable la compliance. Et c'est ce que le juriste compliance doit essayer de faire comprendre et de faire avancer, c'est que le juriste compliance, c'est un allié pour les dirigeants, pour le chiffre d'affaires, pour les métiers aussi, pour les process, parce qu'on sécurise aussi des métiers, des activités opérationnelles. Donc, le juriste compliance, il identifie ça, et après, il pousse le sujet en interne, et il fait sa petite part de lobby aussi, et c'est ce que j'ai fait, du coup, face à cette situation.
Et là, vous parlez beaucoup de tous les deux de grandes entreprises, d'administration, etc., mais finalement, ça touche aussi toutes les petites PME. Toutes les entreprises, finalement, sont soumises à des réglementations et auraient besoin d'aide de juristes compliance.
Tout à fait, Benoît. En fait, sur un certain nombre de personnes morales, donc, ou des grosses boîtes, ou des grosses administrations, effectivement, de plus de 50 agents, là, effectivement, il y a des obligations qui sont très uniformisées, DPO, par exemple, en matière RGPD, anticorruption, etc. Sur les petites PME, les TPE, etc., on va retrouver ces obligations-là, pas forcément de la même intensité, mais on va retrouver une partie de ces obligations. Je prends un exemple tout bête. Demain, j'ai une PME de 30 salariés, j'ai pas d'obligation de nommer un délégué à la protection des données en matière de RGPD. J'ai pas l'obligation non plus de tenir une cartographie des risques en matière de lutte contre la corruption, Sapin 2. En revanche, je vais devoir quand même répondre à des prestataires si jamais, par exemple, je suis client d'une administration publique qui me contacte pour un marché, je vais devoir fournir des attestations, par exemple, etc. Donc, on retrouve cette part d'obligation, et les PME sont un petit peu, si j'ose dire, un cœur de métier un peu oublié dans le monde de la compliance. Ils ont du mal aussi à se sensibiliser à ces sujets-là, peut-être aussi parce qu'on leur explique pas très bien et qu'il manque de juristes dans la matière.
Et comme les grandes entreprises, elles se rendent compte un peu tard qu'elles avaient des obligations.
Tout à fait.
Donc il y a toute cette sensibilisation aussi qu'il faut faire.
Tout à fait. On retrouve des sanctions de différentes autorités en matière de lutte contre la corruption ou de vie privée RGPD, par exemple, données personnelles, qui vont frapper effectivement les petites et moyennes entreprises. Et là, pareil, le dirigeant, il est un peu étonné, il ne comprenait pas tout ce droit-là, parce qu'il n'avait peut-être pas de juriste ou de ressources compliance à disposition.
Et dans ce cas-là, pour les petites entreprises, est-ce qu'il y a une sorte d'audit compliance qu'ils peuvent commander sans dire, bah tiens, je suis une entreprise, j'existe depuis un certain temps, j'ai vu qu'il y avait plein de réglementations, franchement, j'ai pas fait très attention. J'appelle un juriste compliance et il vient faire un audit de 2 jours pour voir où on en est.
C'est tout à fait possible. Il y a 2 façons de faire dans ce cas-là. Ou on fait appel effectivement à un cabinet privé. Ça peut être un cabinet de conseil, un cabinet d'avocat aussi. Maintenant, les avocats sont un peu montés au créneau sur ce sujet-là. Mais il y a aussi une autre manière de faire pour les petites administrations ou les PME-TPE, c'est d'aller demander directement à des guichets uniques d'autorités administratives qui sont compétentes dans les domaines respectifs, corruption, vie privée, etc. Donc c'est tout à fait possible. Mais le mieux, effectivement, c'est de faire appel à un audit avec des juristes spécialisés qui ont été formés pour ça précisément.
On a jamais autant entendu parler de protection des données que ces dernières années avec la RGPD. On a vu aussi, quand on a les sites internet, les cookies ont été vachement encadrés. Enfin, on voit que c'est un sujet qui est aujourd'hui assez brûlant. Je suppose que ça a donné un essor à votre métier et qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un métier en pleine croissance. Donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec les formations. Est-ce qu'il y a un domaine qui aujourd'hui, selon toi et selon ton expertise, est encore mal géré d'un point de vue norme et devrait dans les prochaines années faire l'objet de plus de conformité.
Je vois un domaine qui est assez oublié par les autorités publiques, l'État, hein, qui impulse ces normes-là notamment, c'est le domaine des données publiques. J'explique très rapidement ce que c'est avec un petit exemple assez rigolo que j'ai pu connaître. Les données publiques, c'est une obligation qui est faite sur les personnes publiques, administration, collectivité, etc., mais également sur les entreprises privées, grandes ou petites, qui ont des missions de service public. Par exemple, vous savez qu'un Veolia, par exemple, qui fait de l'eau potable sur le territoire français, Veolia, il a une mission de service public. La personne publique a fait appel à Veolia pour aller distribuer l'eau potable, traiter l'eau, que sais-je encore. Cette obligation de données publiques, en anglais on dirait open data, c'est de dire, hey, vous, secteur public ou vous, secteur privé, qui avez une mission de service public, vous allez ouvrir vos données. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un climat d'innovation, de croissance économique, on a besoin d'accéder à des données qui sont encore un petit peu enfouies, que le secteur public n'a pas encore bien ouvert ou mis en qualité. Prenez l'exemple, par exemple, de l'Institut, je prends l'Institut National des Forêts, où pendant des années, les données, les données de Météo France, qui n'ont pas été ouvertes pendant des années. Aujourd'hui, les données Météo France, elles sont ouvertes en partie, et on peut créer du coup des applications innovantes, mettre ces données-là sur des cartographies ou des systèmes de géolocalisation.
Elles sont ouvertes gratuitement ?
Gratuitement, tout
à fait. Alors qu'avant, Météo France se gardait ses datas, genre vendait la clé API pour avoir accès aux données, alors que c'était un service public.
C'est ça, exactement. En fait, la logique qui sous-tend la chose, c'est que pendant des années, fin 20e siècle, l'administration s'est informatisée, s'est numérisée, etc. Et la logique qui était jusqu'alors, jusqu'à 2016, grosso modo, de dire les données publiques, si vous voulez y accéder, on vous les fait payer tarif. Aujourd'hui, ces données publiques, on réalise qu'elles sont déjà financées. Elles sont financées par un truc un peu magique qui s'appelle l'impôt. Et donc, on n'a pas à les refaire payer auprès du citoyen ou du consommateur, puisqu'elles ont déjà été payées de facto par le budget de l'État.
Est-ce que c'est le Covid, le travail de Guillaume Rosier pendant cette période-là qui a amené peut-être cette impulsion ?
Tout à fait, tout à fait. Pour être tout à fait honnête, l'obligation en matière d'open data, elle date juridiquement de 2016. Il y a eu une loi qui s'appelait la loi pour une république numérique qui a dit « Vous, administration, à partir de maintenant, on arrête de rigoler, on ouvre les données. » Et 2018, cette loi-là a commencé un petit peu à se vulgariser, les gens ont commencé à se dire « Ouh là là, ce truc-là, ça existe !» Mais il y a eu le sacro-saint RGPD qui est venu un peu faire d'ombre à cette obligation. En 2020, effectivement, avec tous les travaux de Guillaume Rosier, effectivement, sur les données, l'open data des données médicales, hein, pour la gestion du Covid, il y a eu une forme de lueur politique sur le sujet. Et donc, les gens ont redécouvert cette obligation-là, qui n'est pas encore efficace, je réponds à votre question, parce qu'il n'y a pas encore de sanctions et de dispositifs de conformité. Quand on fait du sapin 2, on a une feuille de route, quand on fait du RGPD, on a des principes à respecter, et on crée les outils un petit peu de façon innovante pour faire respecter ça en interne. Mais en open data, on n'a encore rien. On n'a rien qui est créé. Donc, on attend un petit peu que ça aille un peu plus loin juridiquement pour que les juristes compliance s'en saisissent et que les administrations et les entreprises qui ont des missions de service public se mettent en conformité également.
Donc aujourd'hui, ces entreprises qui traitent des données qui sont dites publiques, donc sont obligés de les mettre à disposition des gens via des API, j'imagine, ou des technologies qui permettent ensuite de les parser et de les traiter. Certaines ne le font pas. Il n'y a pas encore de sanctions pour celles qui ne le font pas.
Il n'y a pas encore
ça. Tu penses que ça va évoluer ?
Je pense
que c'est souvent comme ça, il me semble, d'ailleurs. Il y a souvent, sur un certain nombre de choses, d'abord, oui, il faut le faire, mais on ne contrôle pas, puis on contrôle, puis on sanctionne.
C'est ce qui s'est passé avec le RGPD en 2018. En 2016, quand le RGPD est adopté, il entre en application en 2018, pas mal d'entreprises, d'administrations se disent « Bon, le RGPD, c'est encore une norme en plus, il y en a déjà 2-3 qu'on ne respecte pas trop, ça ne fera pas de mal d'en avoir une de plus sur le tapis. » Mais quand la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis ses premières sanctions sur des grosses entreprises, pensez au secteur bancaire, financier, pensez aux GAFAM aussi, hein, Google, Facebook, Amazon, qui ont pris des jolies pépites, à ce moment-là, les gens ont commencé à se dire « Ah oui, en fait, il nous faudrait peut-être un juriste, une juriste compliance. » Et c'est là où il y a eu une forme de paradoxe sur le marché de l'emploi, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de juristes qui étaient formés à ce sujet. Il n'y avait pas de master 2 compliance, si tu veux. Ça n'existait pas, ce truc-là. Donc, il a fallu se former avec des outils au début un peu précaires, les formations de la CNIL, ce genre de choses, et ensuite commencer à trouver des formations un peu dédiées au sujet. Si tu me le permets, je raconte juste une petite histoire en matière de données publiques. À Haute-Paris, là où j'ai travaillé notamment pendant quelques années, donc une administration sur le territoire parisien, on voulait accéder à un moment donné à des données en matière agricole. Des données qui sont traitées par le ministère de l'Agriculture, qui ne sont pas des données personnelles, mais dont on avait besoin pour des politiques publiques de subventions agricoles, puisqu'on fait de l'eau potable, donc l'eau potable passe sur des terrains, on avait des agriculteurs à subventionner. Et on avait demandé un certain nombre d'informations au ministère de l'Agriculture qui n'étaient pas ouvertes, des données en termes de qualité d'un terrain, d'une exploitation agraire, par exemple, ce genre de choses-là. Et on nous a opposé un refus. On nous a dit « Ah non, vous ne pouvez pas accéder à ces données » pour un nombre de motifs que je ne vous ai pas de maintenant. Et en travaillant un petit peu, en jouant sur le droit des données publiques et de l'open data, on a réussi à accéder à ces données parce que c'est une obligation aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore de sanctions que les personnes publiques ou personnes privées en charge du service public ne doivent pas s'y conformer. Et il faut faire connaître ce sujet-là.
Eh bien écoute, merci beaucoup, très intéressant. Benoît, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les différents cursus et formations ?
Alors, assez rapidement, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe en ce moment, les formations dessus, parce que Paul nous l'a dit, c'est finalement des matières qui n'existaient pas. On parlait de 2018, en 2018, il n'y avait pas de formation en conformité, en tout cas pas spécifique, et puis effectivement, des choses se sont montées. Mais si on prend l'exemple de DPO, on a commencé avec une formation labellisée CNIL, qui est à 35 heures. On se doute bien qu'en 35 heures, on ne devient pas un expert de toutes ces questions.
Ah, ça, c'est quoi DPO
DPO, donc c'est le Data Protection Officer, donc le responsable.
Ça, c'est une formation.
C'est une formation qui a été labellisée par la CNIL, donc D'accord. C'est la CNIL qui chapeaute tout ça, qui permet de donner finalement les bonnes bases du sujet.
Mais quand on est déjà juriste ou simplement pour n'importe quel citoyen ?
C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde à partir okay. du moment où tu as une pertinence dans l'entreprise, où tu as un certain niveau, etc. Mais ce n'est pas accessible à des juristes.
Okay.
C'est pas obligatoirement, je veux dire, accessible à des juristes. Donc, ce qui veut dire que tu as 35 heures, tu as les bases de RGPD. C'est bien, mais ça suffit pas pour pouvoir mettre en place une politique de RGPD dans une entreprise. Donc, finalement, pas mal de formations se sont construites. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est assez complexe, c'est qu'en fait, on va avoir des formations spécifiques sur des domaines de compliance, par exemple des formations DPO qui là peuvent être sur des bac plus 3 ou des bac plus 5, donc c'est des formations qui sont plus longues parce que en plus de la bonne connaissance de la législation, il y a une bonne connaissance de l'entreprise, une bonne connaissance de la gestion de projet, de la gestion d'innovation dans une entreprise, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à maîtriser dedans. Donc tu as ça en DPO. Tu as beaucoup ça dans le monde bancaire, c'est-à-dire qu'il y a énormément aujourd'hui, soit d'universités, soit d'écoles, qui ont fait des masters pour le secteur bancaire, conformité en secteur bancaire. Et puis, tu as, de manière un peu émergente, quelques formations pour les juristes qui sont en train de se faire de conformité au sens plus large, à la fois à l'université, mais c'est encore assez rare à l'université, et plutôt dans les écoles. Et ça fait partie justement des formations que j'ai montées à l'ESMD. On a un master justement dans cette compliance. Et puis, ces formations, elles sont accessibles dans un cursus classique, dans un cursus, je dirais, initial. Mais il est aussi possible, puisque c'est une matière nouvelle, enfin des matières nouvelles, de le faire en formation continue, sous forme de MBA ou sous forme de formation courte. Mais moi, la question que j'ai, parce que quand je regarde un petit peu tout ce qui existe sur le secteur, la question que je voulais poser à Paul, c'est que la plupart de ces formations sont ouvertes à des financiers. Est-ce que pour être un spécialiste de la conformité, est-ce qu'il faut être un bon financier ou un bon juriste, ou les deux, ou c'est juriste avant tout ?
Tu disais quelque chose, Benoît, que j'ai beaucoup aimé dans ton propos, c'est que quand on fait du droit de la compliance, bien sûr, on est d'abord juriste, hein, ça c'est vrai, hein, on doit analyser des normes, des textes, avec certains outils d'analyse juridique qui sont propres à la profession, si j'ose dire. Mais tu as parlé aussi d'être chef de projet, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est là la clé du sujet. Bien sûr que les formations compliance, que la thématique de la compliance, elle est ouverte à toutes et tous, il n'y a pas de sujet là-dessus, tout le monde peut s'en saisir à grande ou petite échelle avec les formations gratuites, CNIL, etc. Mais quand on est dans une entreprise, une administration, qu'on veut vivre de ça, qu'on touche un salaire pour cette chose-là, il faut qu'on mène à bien des projets de mise en conformité. Et ça, on ne peut pas le faire uniquement si on connaît tous les textes par cœur, les articles, nanana. Moi, j'ai souvent tendance à dire, quand j'enseigne aussi un petit peu dans quelques formations, que jamais je ne demanderai à un étudiant ou une étudiante le numéro d'un article. Par contre, je veux la logique d'un principe et une manière, une idée plus ou moins inventive de mettre en application ce principe-là dans une institution, entreprise, association, administration, que sais-je. Donc, je suis d'accord avec ce que tu disais. Pour répondre vraiment à ta question, c'est ouvert bien sûr aux juristes, mais il n'y a pas besoin d'être que juriste, et il vaut mieux ne pas être que juriste pour aller sur ces thématiques-là. Il faut savoir mener un projet, être aussi un petit peu diplomate, hein, quand on fait avancer des obligations en interne, il faut avoir aussi un sens RH assez développé, hein. Il ne faut pas rentrer dans le ventre des métiers, des opérationnels, des dirigeants également. Il faut aussi être un peu pédagogue. Donc, je dirais que ces formations-là, bien sûr, si on est juriste, c'est un plus. Mais il faut être juriste, mais il faut être aussi autre chose en plus. C'est en ce sens-là que le droit de la compliance est un peu artistique, comme j'ai dit au début.
Je veux bien qu'on fasse juste un petit point pour nos auditeurs sur ce qu'est un juriste. Parce que dans les métiers du droit, ces dernières années. On parle souvent des avocats, on parle souvent des juges, on parle beaucoup de ces métiers qui sont dans des, dans, au tribunal. Mais le juriste, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est particulièrement porteur. Et qu'est-ce que c'est qu'un juriste, Benoît ?
Alors,
explique-moi.
Un juriste, je crois même qu'il y a un cadre légal pour être juriste.
Ça ne m'étonnerait pas.
Voilà,
ce serait l'inverse serait un peu vexant quand même.
Et je crois que, si ma mémoire est bonne, il faut avoir un bac plus 4. C'est le bac plus 4 pour pouvoir être juriste. Après, tu peux avoir des promotions dans, dans l'entreprise. Mais il y a, un lien avec, avec les études. Ce qui est intéressant, c'est que tu le dis, sur les formations et sur les métiers autour du droit, c'est que forcément, la première image qu'on a en tête, c'est le métier d'avocat. Métier d'avocat, aujourd'hui en France, il y a énormément d'avocats. Je ne veux pas dire qu'il y a trop d'avocats, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend quand même assez régulièrement, puisqu'il y a 90 000 avocats en France, dont plus d'un tiers est à Paris, pour donner un peu la, la, la composition. Et comme il y a 90 000 avocats, je te laisse, Guillaume, me deviner combien il peut y avoir de magistrats.
Alors là, mon vieux, vraiment, on m'en a posé des questions, mais alors celle-là, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, attends.
Alors, en proportion, allez.
Déjà, qu'est-ce qu'un magistrat ?
Donc c'est le, l'ensemble des juges et de ceux qui vont administrer la, 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 les procès et les différentes
donc,
procédures.
Donc, si on raisonne de manière American, dans un procès, il y a souvent deux personnes, l'accusé et la victime. Chacun a un avocat. Donc, est-ce qu'on n'irait pas faire une petite cote, genre il faudrait 45 000 magistrats pour qu'à chaque fois qu'il y a un magistrat qui fait son... Ah mais non, parce qu'attends, les magistrats, c'est plusieurs magistrats dans... Donc combien ?
Bah, selon
tu m'as posé une question,
selon,
mon vieux,
selon,
maintenant.
Selon les affaires, les tribunaux, tu peux en avoir... Parce que tu vas avoir le procureur, tu...
Donc
tu
le procureur, le juge,
enfin, voilà.
Le procureur, les assesseurs, si jamais tu es au pénal devant les cours d'assises, tu peux avoir le juge.
Les assesseurs, c'est pour monter en haut du tribunal ?
Oui, c'est ça, c'est l'ensemble des... Tout à fait.
Ok.
Tu peux en avoir entre 3 et 5, 6.
Donc, on est sur un ratio 5 pour 2. Donc, du coup, il faudrait beaucoup plus de magistrats. Et à ton regard pétillant, je me dis que ce n'est pas le cas.
Parce que, en fait,
bon, il y a trop d'avocats. Il y a beaucoup trop d'avocats.
En fait, t'as un peu moins de 900 magistrats.
Ah oui.
Alors, c'est pour ça que je te pose la question.
Techniquement, il en faudrait 150 000 dans un monde où il y a beaucoup de crimes.
Non, pas autant, parce qu'en fait, l'image aussi que l'on a sur l'avocat, c'est celui qui va plaider au tribunal. Il y a énormément d'avocats qui vont absolument jamais plaider au tribunal et qui vont régler des conflits entre les entreprises, entre des particuliers, etc. et qui ne mettront pas les pieds dans un tribunal. Les avocats plaideurs, c'est pas la majorité des avocats. Et ça aussi, ça fait partie des idées fausses que l'on a quand on commence des études de droit. Après, donc tu as ces métiers-là, tu as tous les métiers autour de notaire, huissier, etc., qui sont les autres métiers autour du droit.
Des métiers assez horribles. Non, on ne juge pas.
On ne juge pas, okay. Parce que peut-être demain, on pourrait recevoir un huissier.
Oui.
Faisons un...
on paye pas nos impôts, et juste on attend qu'il vienne, et on lui dit, installe-toi.
Et on fait, c'est pas un métier huissier.
Après, il prend les micros, il se barre, tu sais.
Oui, mais à la fin de l'émission, donc ça va.
Oui, voilà, ouais.
Et après, tu as tout ce qui est en train de se développer vraiment en ce moment, ce sont les juristes en entreprise. Et là, c'est aujourd'hui aux alentours de 18 000, je crois, juristes en entreprise. Donc, c'est en train de se développer. Il faut savoir qu'il y a un tiers des avocats qui passent dans le privé dans les 10 premières années de leur vie professionnelle. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une attraction très, très forte des entreprises pour capter des juristes parce que le besoin en juristes dans les entreprises est devenu extrêmement important, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il n'y a que les très grosses boîtes qui avaient des juristes. Aujourd'hui, il y a même des juristes uniques dans certaines entreprises.
Et toi, tu as monté une école qui est spécialisée sur les juristes ?
C'est ça.
OK.
Moi, j'ai monté une école qui est spécialisée dans les juristes d'entreprise. Hein. On ne forme pas aux avocats, on ne forme pas à ces métiers-là. On forme vraiment aux juristes en entreprise parce qu'on pense, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour être un bon juriste en entreprise, il ne faut pas que connaître le droit, il faut aussi comprendre l'entreprise, ses enjeux, son fonctionnement, et il faut savoir piloter des projets et piloter finalement des gens et piloter l'innovation dans une entreprise. Et donc, on rejoint complètement l'approche sur le juriste compliance, et c'est pour ça qu'une de nos spécialités, c'est le juriste compliance.
Donc, on est sur une réponse assez concrète à un besoin qu'on a aujourd'hui et qui pourrait être amené à se multiplier, à continuer à...
C'est ça.
On a besoin de plus de juristes que d'avocats.
Tu te souviens, il y a quelques années, on avait monté une école, ça s'appelait SupInternet, parce qu'il y avait des besoins dans les entreprises de gens qui savaient maîtriser le net, et tout le monde regardait ça comme une manière un peu bizarre.
Ouais. T'as dit le net ?
J'ai dit le net.
D'accord.
Désolé. Comme quelque chose d'un petit peu bizarre, et puis finalement, ça s'est généralisé. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le SMD et les métiers du droit.
Ouais, si vous voulez devenir juriste, allez à l'ESMD. C'est une petite passe-dé que je te fais, mais je trouve qu'elle est méritée. Tu vois,
Merci.
Tu la prends.
Paul, la question qui fâche à chaque fois, combien ça gagne un juriste compliance?
C'est la question qu'il faut se poser quand il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on va faire de sa vie ou dans les 15 ou 20 prochaines années. Je vais te répondre en deux temps. Quand on est juriste compliance en salarié, c'est-à-dire quand on est juriste dans un service juridique d'entreprise ou d'administration, hein, je tiens aussi à dire ça au micro, mais l'administration aussi est sujette à la compliance, donc il y a aussi un débouché là-dedans. Du côté du secteur public. Quand on est juriste compliance en salariat, on va pouvoir commencer un junior autour des 38 000, 40 000 euros annuels sur 12 mois, j'entends, et je parle en brut. Quand on est ensuite en consulting et qu'on a un profil junior ou pas loin du senior, on va pouvoir prétendre à du 48 000, 50 000 euros annuels brut sur 12 mois pour ce type de profession. Ça peut varier ensuite, bien sûr, selon les grilles indiciaires secteur public ou alors... les rémunérations, les avantages aussi, en matière d'intéressement côté entreprise, il faut prendre ça en compte quand on cherche un boulot. Mais grosso modo, on est dans cette fourchette-là, on est sur du, vraiment secteur public à minima, 35-38 000 bruts annuels. Et puis, dès qu'on va aller du côté du consulting ou de grandes entreprises, on peut rapidement monter en carrière, en rémunération, et aller sur du 48 000, 50 000, et puis après, sky is the limit, tant qu'on fait bien son boulot, qu'on mange pas d'amende.
On n'a jamais eu, de l'histoire de ce podcast, une réponse...
aussi détaillé.
En fait, c'est la réponse qu'on attend à chaque fois. Et tu sais, ça. On gagne assez pour mener une belle vie après. Je suis pas milliardaire, hein, mais voilà. C'était d'une précision. C'était un régal. C'était
parce que je me suis posé ces questions-là.
On imagine, mais tout le monde se les pose, t'inquiète pas. Et tout le monde connaît les réponses, mais alors là, t'as dit des chiffres, quoi. Et alors, tu gagnes combien, toi?
Ah, oh, quand même.
Ah, quand je vais te mettre un peu en pudeur. Hein.
Si en plus le huissier est au prochain podcast.
En préparant l'émission, je suis tombé sur un article qui semble faire un peu de polémique chez les spécialistes en compliance. C'est est-ce que la RSE, c'est de la compliance ou pas? Alors, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui est un ensemble notamment de critères sur lesquels les entreprises doivent se positionner.
Pour moi, à mon sens, la RSE, c'est de la compliance. Faut expliquer ce qui n'est pas de la compliance. Je vous prends un exemple bateau que le droit connaît depuis des siècles. Quand vous faites un contrat avec une personne publique ou une personne privée, hein, qu'importe si c'est un marché public ou que sais-je, vous avez des règles, ce qu'on appelle des règles d'ordre public. Traduction en langage moldu, grosso modo, ça veut dire des règles qu'on ne peut pas déroger. Genre, on met ça, dans ton contrat, il y a toujours une clause, tribunal compétent, etc. etc. Ok. Ça, c'est des règles qu'on ne peut pas y échapper. Elles existent, on lit la loi et donc on les met dans le contrat. A, B, grosso modo. Dans la compliance, OK, il y a des grands principes, mais le cadre juridique de la RSE, je ne suis pas spécialiste de la RSE, donc je mets quand même des guillemets à ce que je dis, mais je veux dire, en corruption par exemple, la loi Sympa 2 donne des grands principes, mais ne donne pas le mode d'emploi. C'est le juriste qui va créer en interne des différents outils pour se mettre en conformité. Pour la RSE, c'est pareil. La RSE, il y a des grands principes qui sont énoncés par le législateur et, in fine, l'État, pour mettre en conformité des entreprises qui vont peut-être des fois trop polluer ou avoir des comportements économiques ou sociétaux qui ne sont pas forcément aujourd'hui très actuels ou bien reçus. Et donc, le juriste va accompagner ces obligations-là et trouver la meilleure manière pour les rendre effectives. À mon sens, la RSE, c'est de la compliance. Comme je considère que l'open data, c'est de la compliance, RGPD, c'est de la compliance, etc. C'est quand on a une marge de manœuvre, cette compliance.
Ce qui veut dire que le développement est infini. Il y a vraiment, dans ces métiers-là, pas mal de choses qui vont se faire.
Tout à fait. J'irais même jusqu'à vous dire que l'égalité, par exemple, homme-femme entreprise, c'est de la compliance, que l'open data, c'est de la compliance, que le droit aussi des données industrielles, les données non personnelles, ça devient de la compliance. Le champ est infini. Parce que c'est une méthode, la compliance. C'est pas un fond, c'est une méthode. Et après, on y met ce qu'on veut.
Est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure éventuellement que tu aurais envie de nous dire, Paul? Un conseil, un...
Oui, faites de la compliance. Vraiment, à toutes celles et ceux qui peuvent nous écouter ou qui écouteront ce podcast, faites de la compliance. C'est une des manières de faire le droit les plus originales et les plus divertissantes. Et en ce sens-là, moi, je rejoins le point de vue de Benoît. Il va y avoir plein de nouveaux sujets dans la compliance. Quand on dit juriste compliance, il peut y avoir des juristes en matière RGPD, en matière Sapin 2, corruption, en matière open data, comme j'ai dit à l'instant. Donc, le champ des possibles est vraiment quasi infini, puisque de la norme, il y en aura toujours, hein, tant qu'il y aura cette petite chose sympa qui s'appelle l'État. Donc voilà, faut aller dans ce domaine-là, il faut investir le sujet et je pense que toutes les initiatives qui ont été énoncées à l'instant sont top.
Là, sauf si on est anarchiste, du coup.
Oui, là, c'est encore pas... l'anarchiste a des règles, hein, il me semble. Ouais. Ça, c'est mes vieux souvenirs de Sciences Po.
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que toi, t'as des règles chez toi, par exemple, pour vider le lave-vaisselle, pour fermer la fenêtre, pour allumer les lumières que t'as mises et qui doivent être respectées par tout le monde?
Je mets mon lait avant les cornflakes.
Avant les cornflakes, ouais, et c'est une norme dans ton salon, quoi.
C'est ma compliance, ouais. C'est nickel. Ma compliance. Il y a ma propre autorité qui va me faire des propres contrôles si jamais j'inverse le truc.
Et c'est quoi la sanction? C'est que ça éclabousse un peu ta table.
J'arrive en retard au boulot.
Ça tue. Bah écoute, franchement, c'était pas évident, je trouve, de rendre ce métier attrayant. Je crois qu'on a réussi. T'es un ambassadeur remarquable pour la compliance, je trouve. Alors moi, j'ai un peu... Maintenant, j'ai une carrière, j'ai fait ma vie, mais waouh, j'ai presque envie de faire de la compliance. Je vais peut-être tout plaquer pour faire de la compliance.
Direction l'école de Benoît.
Allez, direction le SMD. Alors, en tant qu'expert en conformité, j'ai une dernière question. Toi, t'as l'habitude de faire respecter des règles, d'analyser les règles, mais est-ce qu'il y a une règle que tu rêverais de faire appliquer à tout le monde? Ça peut être une règle idiote.
Les règles, on peut aussi des fois les contourner, ça fait aussi partie du métier ou de les interpréter. Mais pour répondre sur ta question, une règle que j'aimerais que tout le monde applique, vraiment. Il y a un droit que tout le monde ignore, que personne met en œuvre, et c'est ce qui fait aussi que, notamment en matière d'accès aux données publiques, bah, ça avance pas. Mais chaque citoyen, vous, toi Benoît, toi Guillaume, aucun souci là-dessus, vous pouvez demander à une administration l'ensemble des documents qu'elle détient sur vous. Je prends un exemple tout bête. Demain, je suis agriculteur. Il y a un projet de TGV qui va passer pour relier je ne sais pas quelle ville à Paris. D'accord. J'ai le droit de demander l'ensemble du dossier, les pièces de procédure, la décision administrative du préfet ou que sais-je qui a fait voter cette décision. J'ai le droit d'accéder aussi à mes données personnelles si jamais on a parlé de moi directement. Cette règle-là, ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs, c'est le terme un petit peu vintage pour dire l'open data et données publiques, personne l'applique. Je veux dire, il y a plein de données qu'on devrait avoir. Exemple tout simple, et vraiment j'en conclue. Météo France, il y a encore tout un ensemble de données détenues par Météo France qui ne sont pas gratuites de façon open data, qu'on doit encore payer via une redevance. Bah ça, il faut que plein de gens se motivent, des associations en la matière, je ne sais pas, météorologiques, si ça existe ou autre chose, et de faire des demandes en masse, en balle, pour commencer à faire respecter ces obligations-là. L'administration ne répond qu'à 10% à son obligation d'open data ou de communication des documents administratifs.
Donc en fait, on pourrait aller râler là-dessus. C'est cette même administration qui nous met des amendes si on donne le code d'accès aux copains de chez EDF. Tu vois.
Exactement.
Elle est belle, la France.
Voilà.
Merci Anne Hidalgo. Ok, bah écoutez, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était très chouette, très intéressant. Un immense merci à Paul d'avoir partagé avec nous ton expérience. C'était hyper chouette de t'entendre parler de la poésie du droit et c'était passionnant. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers ou sur l'orientation, n'hésitez pas à écrire à Benoît sur c'estpasunmétier.fr. À bientôt, Benoît.
À bientôt, Guillaume.
Salut, Paul. Encore merci.
Encore merci à vous.
C'est pas un métier est un podcast EVL Prod, production Benoît Lachant, réalisation Benjamin Septem-Ours, direction de production Paloma Sterzati. Si vous avez aimé cet épisode, eh ben déjà, je suis heureux de l'entendre. Et alors si je pouvais, je vous laisserais 5 étoiles. Malheureusement, le monde n'est pas fait comme ça, et c'est à vous de me laisser des étoiles. Alors je compte sur vous. Allez, ciao.